grid by Kenyon.
I'm going home.
close, isn't it?
Bonjour à tous, nous sommes à Marseille, à Radio Grenouille au 88.8 FM. Et Radio Grenouille, bien, c'est vraiment une radio très établie ici à Marseille depuis très longtemps. Et je fais le saut entre CKUT et ici, ce grand changement pour moi d'être ici et de rencontrer les artistes marseillais, les artistes québécois dans le cadre de Micro Silence, une orchestration plastique. Une collaboration entre le Québec et la France. Donc, Perte de signal nous a invités, nous, les Québécois. Je suis avec, ici en studio avec Claudette Lemay. Bonjour, Claudette.
Bonjour, Esther.
Donc, nous nous sommes fait inviter à participer à cette fantastique exposition. La commissaire Constance Meff, si je prononce bien son nom, nous a invités. Et l'expo est lancée depuis hier officiellement. Le thème central de cette exposition, bien, c'est le silence et le micro-silence. Donc, le petit silence, quand on parle de micro, c'est petit, mais c'est aussi micro, l'outil micro pour capter les sons. Et cette exposition est composée d'œuvres, bien, qui projette des petits sons, justement, des petites vibrations même, mais aussi du silence qui est représenté via, par exemple, du dessin. Telle l'œuvre de Claudette Lemay, qui s'intitule Hertz, seconde. Donc, Claudette a cette version qu'elle présente ici à Marseille, au Grand Douche Bain, la galerie Grand
Douche.
Bain Douche. Et donc, c'est un dessin sur le mur qui est très intéressant, qui est issu d'une vidéo. Mais si tu pouvais nous en parler davantage de la genèse de cette œuvre.
Ben, en fait, ça fait partie d'une recherche autour des chants d'oiseaux, mais aussi autour du langage et de la traduction et l'interprétation. Qu'on fait, entre autres, des chants d'oiseaux. Mais ça origine l'idée d'une résidence que j'ai faite en Finlande et je travaillais sur le finnois. Et, Et du coup, quelques années plus tard, j'en suis venue au chant d'oiseaux, mais je ne sais pas trop comment, mais... j'ai poursuivi une recherche autour des chants d'oiseaux. Le dessin représente des sonagrammes de voix humaines qui essaient de transposer un chant d'oiseaux. Donc, c'est un dessin de... on n'entend pas ni le chant d'oiseaux ni la voix humaine, mais la traduction par sonagramme des voix.
Lorsqu'on regarde l'œuvre, on est face à une sorte de diagramme qui peut se lire de façon horizontale et verticale. Mm-hmm. Chaque voix, comme on peut voir, est l'acteur de divers oiseaux. J'ai cru reconnaître un artiste, Audet.
Oui, Georges Audet.
Voilà. J'ai vu dans le petit crédit. Et lui a été invité à faire plusieurs oiseaux.
Oui.
Donc, on peut voir le grain de sa voix spécifiquement, puisque c'est un canal à la verticale, je pense.
Horizontal.
Horizontal.
Oui. Oui. Alors, c'est ça. En studio, j'ai enregistré, j'ai filmé les gens, j'ai filmé leur bouche et, en leur lisant une phrase que j'ai répertoriée dans les guides d'ornithologie, des phrases qui décrivaient le chant d'oiseau. Par exemple, son chant ressemble à deux cailloux frappés l'un contre l'autre. Alors, je demandais aux gens d'essayer d'imaginer ce que serait le chant d'oiseau décrit par cette phrase. Donc, puis dans le diagramme, le dessin, on peut voir les différentes interprétations, justement, que les gens font de cette phrase. Et puis les couches de sens qui évolue.
Oui, c'est très ouvert à l'interprétation.
Oui. Oui, c'est ça.
Par exemple, parle-moi d'un des oiseaux. Est-ce qu'il y a un merle ou un rossignol ou quelque chose qui...
Il y avait le huard.
OK, le huard. Et quelle est la petite phrase?
Je m'en souviens pas, mais
ou
c'était...
Ou une autre petite phrase que tu te souviens?
Mais le huard, c'était une plainte mélancolique. Quelque chose. En tout cas, ça parlait de la plainte, de la mélancolie. Donc, les gens faisaient...
Est-ce qu'ils se sont pratiqués beaucoup?
Non, c'était sur le vif.
Un one-shot, comme on dit?
Oui, oui, oui. Vraiment, je filmais seulement la bouche. Et puis, je leur lisais, j'avais, je crois, 16 phrases. 9 personnes et 16 phrases. Je leur lisais et puis, spontanément, improvisé. Oui, les gens... Mais ce qui était drôle aussi, c'est que j'avais, dans un des enregistrements, une mère avec son fils de 4 ans. Puis le petit a vu sa mère faire les différents chants. Et puis, il ne comprenait pas souvent les phrases que je disais, mais il se rappelait de l'imitation de sa mère et il imitait lui à son tour. Donc, ça ajoute encore une autre couche d'interprétation.
Mmh. Ouais, donc c'est ça. Intéressant. Donc, en parlant d'oiseaux, bien, nous avons un artiste marseillais avec nous, Oussama Tabti.
C'est ça.
Et... C'est une des œuvres qui est à l'extérieur, la seule œuvre extérieure, qui... C'est le son d'un oiseau qui est diffusé. Mmh. Et elle a une dimension assez politique qui retourne à tes racines. Et c'est très historique comme fait que tu présentes. Et c'est très touchant aussi. Tu peux nous expliquer?
Ouais, en fait, c'est une installation sonore qui est, comme tu le disais, à l'extérieur, mais qui peut aussi se présenter à l'intérieur. Là, je voulais profiter aussi de toute la végétation qu'il y avait dans l'espace et tout, pour essayer de l'installer, enfin, que ça se rende un petit peu avec la végétation du lieu. C'est une installation qui se déclenche 5 fois par jour, qui diffuse un chant de chardonneret. Et en fait, ça démarre de l'histoire d'un musicien, compositeur et interprète de musique chaabi algérienne, qui pendant la colonisation et pendant la guerre d'Algérie, était condamné à mort à la prison Serkeji. C'est une prison qui est sur les hauteurs d'Alger. Bon, il était condamné à mort, il avait pour habitude de faire l'appel à la prière pour ses co-détenus. Et un gardien de prison lui disait une phrase, il lui disait « chante comme un oiseau dans ta cage, chante ton amour au tarage ». Et ça l'a touché, il a compris en fait l'importance de la liberté. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il a envoyé une lettre à sa femme lui demandant de libérer tous les oiseaux qu'il avait à la maison. Parce que, en fait, le chardonneret, dans la culture algérienne, c'est un animal qui est très présent. Il a une certaine importance dans la société. Il y a beaucoup d'éleveurs, d'amateurs de chardonneret. Et donc, bon, il a demandé ça à sa femme. Après, il a écrit une chanson qui s'appelle Maknenzin, ça veut dire joli chardonneret en dialecte algérien. Et dans la chanson, il parle du chardon, mais ça avait une connotation sur la liberté, en fait. Et du coup, voilà, c'est devenu par la suite un des standards de la musique chabi algérienne. Jusqu'à présent, c'est réinterprété par de jeunes artistes, dans de différents styles, même dans du black metal. Ça a été réinterprété. Et bon, après, à travers cette œuvre, en fait, déjà, je reviens sur cette période historique, en fait, qui est la colonisation et la guerre d'Algérie, qui revient souvent aussi dans mes travaux. Et puis, c'est une œuvre qui critique un petit peu, qui porte un regard sur la notion de la liberté telle qu'elle est dictée aujourd'hui, notamment par les médias occidentaux, où on a l'impression qu'il existe un seul modèle de liberté, qu'on ne peut pas appartenir à une religion et être libre en même temps que la religion, en quelque sorte, est synonyme à la soumission. Alors que non, en fait, il y a aussi la liberté du culte, que chacun trouve sa liberté dans ce qu'il veut, en fait. Et je reviens sur cette histoire en faisant un clin d'œil sur la colonisation, quand même, parce qu'il y a 60 ans, l'histoire s'est passée il y a 60 ans, c'est pas très loin, que ce monsieur a été condamné à mort et que sa seule liberté, en fait, la seule chose qu'il pouvait se permettre dans sa petite cellule, en fait, c'était de faire l'appel à la prière. C'est-à-dire, sa voix lui permettait, en quelque sorte, de s'échapper de sa cellule, de s'étendre dans l'espace. Donc voilà. Et symboliquement, c'est une installation qui se déclenche 5 fois par jour aux heures de l'appel à la prière.
Oui, et c'est assez intéressant puisque on peut être assis dans le jardin et soudainement, il y a un oiseau qui chante assez fort,
ouais,
et ponctuellement, et ça se marie avec les autres oiseaux du jardin.
C'est ça, apparemment, c'est même chouette. Hier, ils ont eu une visite, moi j'étais pas, mais ils ont eu une visite d'un chardonneret apparemment.
Ah bon,
ouais,
il cherchait son ami.
Ben oui, en fait, c'est des sons qui attirent, hein, en fait. Enfin, ça attire d'autres oiseaux, mm-hmm. ça communique. Enfin, moi j'ai pu. Enfin, je me suis dit. C'est un petit peu le cas, parce que quand par hasard, du jour au lendemain, il y a un autre chardonneret qui débarque et qui essaye de communiquer, en fait.
Oui, puisqu'il y a des oiseaux qui aiment imiter les autres oiseaux. Mm-hmm. Je n'ai pas le nom en tête de ces oiseaux-là, mais donc, ouais, entre eux, il y a une communication.
Je me suis beaucoup intéressé aux éleveurs, à la manière dont... Et puis, même quand j'étais un peu plus jeune, j'en avais aussi des chardonnerets et des canaries. Et on allait dans des animaleries, en fait, et on trouvait des cassettes de chants de chardonneret, et plusieurs types de chants de chardonneret, parce qu'il n'y en a pas un seul, en fait. Il y en a plusieurs. Tout dépend des régions, d'où est-ce que vient le chardonneret et tout. Et c'était des cassettes qui, pendant que le chardonneret est en période, il est jeune, en fait, c'est là qu'il commence à apprendre à chanter. Et donc, on lui met cette cassette-là pour qu'il apprenne à chanter, en fait, qu'il imite, en fait, le...
Intéressant.
Ouais, et d'ailleurs, moi, mon morceau, en fait, le chant que je diffuse, en fait, c'est un chant que j'ai trouvé sur Internet. Que, voilà, maintenant, avec Internet, on peut les trouver sur Internet. Mm-hmm. Voilà, ouais. Vous tapez sur YouTube « chant chardonneret », vous allez trouver des milliers de propositions.
Ouais, je m'étais posé la question si tu avais fait la captation toi-même.
Ah non, mais si tu as pu le remarquer, c'est d'une très très bonne qualité, quand même, parce qu'on entend juste le chant du chardon, c'est-à-dire que peut-être que ça a été fait dans un studio, je sais plus quoi, mais on n'entend pas l'ambiance qu'il y a derrière, parce que si on aurait enregistré ça avec un simple micro, peut-être que... Oui. Quelque chose, mais je pense... Non, j'ai emprunté. Voilà.
Claudette pourrait ajouter à ton répertoire, pour une version 2 de l'œuvre, ce type d'oiseau.
Le chardon.
Ah oui.
La petite phrase, je ne sais pas ce serait quoi, mais ça pourrait être...
Ben moi, j'ai utilisé les oiseaux de l'Amérique du Nord, là, mais oui, je pourrais... Ben, bon, on a des chardonnerets, mais c'est pas les mêmes.
Ouais, c'est pas, oui, niveau pelage, c'est pas les mêmes couleurs. Ouais, non. C'est ce qu'on m'a dit. En fait, tu peux reprendre la phrase que le gardien de prison disait aux détenus, chante comme un oiseau dans ta cage, chante ton amour au tarage.
Ah ouais.
Voilà. Alors là, on pourrait demander à quelqu'un de siffler la rage ou siffler le...
Là, ça laisse place à interprétation.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Oui, vraiment. Ah, c'est intéressant.
Ouais. Ouais, c'est intéressant puisque lorsque un pays est en guerre ou en occupation, c'est souvent... La musique qui est censurée ou mise de côté ou vraiment réglementée, ou, comme au Mali, l'occupation depuis 2014, je pense, une des occupations a vraiment aboli la musique. Et puis, plein de musiciens maliens doivent s'exiler ou bien se taire ou arrêter la musique.
La musique, la culture, parce que là... C'est vrai que bon, ce qu'il faisait dans sa cellule, c'était faire l'appel à la prière. Bon, c'est un appel à la prière, c'est religieux, mais dans la religion aussi, il y a le côté culturel. C'est-à-dire que il n'y a pas que le côté culturel en fait, mais il y a le culturel aussi. Et ça aussi, c'est à chaque occupation, on essaye de toucher à ces points-là pour détruire en fait une société, détruire la racine, les repères en fait de ça. Voilà.
Ouais, la musique d'un peuple, quand elle est palpable, bien, on peut définir beaucoup de sa de sa société, de sa santé culturelle, santé sociopolitique.
Mais ça peut sauver aussi de situations vraiment difficiles. Quand on a la chance de chanter ou de faire de la musique, ça peut nous sauver d'un...
Oui, bien sûr.
C'est pour ça que ça peut être brimé aussi en même temps.
Je m'intéressais, par exemple, au grain de la voix. Parce que lorsqu'on pense à un micro, il y a toute cette culture aussi du micro-sound et du micro et du petit. Donc, j'aime bien le fait qu'on voit le grain de la voix imprimé sur ton dessin.
Ah oui, oui.
Tu disais que ce n'est pas des pictogrammes, mais des...
Des sonogrammes.
Sonogrammes, voilà.
Sonogrammes.
Est-ce que tu travailles souvent dans cette approche de graver la voix, de rendre visible le grain de la voix?
Ouais. Non, c'était la première fois que... Mais on le voit, quand on fait notre montage sonore, on voit les ondes. Alors, ça m'a toujours quand même fascinée de voir la transcription à l'écran. Donc, l'idée est venue d'imprimer... Même le silence, quand dans le dessin, on voit les ondes sonores plus franches, parfois noires, qui traduisent le son.
Okay.
Mais le silence, c'est comme un petit gris.
Intéressant.
Fond de l'écran, j'imagine.
Un petit flou?
Oui, un flou gris.
Un petit nuage, je suppose.
Ouais.
Estompé, peut-être. Là.
Oui.
Ah, intéressant. J'irai voir d'un autre œil. Oui,
c'est ça.
Ça me rappelle un travail que j'ai vu qui était le fruit d'un workshop qui a été fait à l'école d'art d'Aix-en-Provence il y a quelques années, vers 2008, où c'était un workshop avec des artistes algérois et des artistes de Marseille et d'Aix-en-Provence, notamment quelques profs aussi de l'école d'art d'Aix, où ils ont fait un workshop en sérigraphie.
Ah oui.
C'était à la fin, c'était une belle petite édition et le thème c'était l'abeille.
Ah.
Donc chacun voulait interpréter l'abeille comme il voulait, en pictogramme, en sérigraphie, en peinture, enfin différentes formes et notamment le texte. Et il y avait un prof de son qui s'appelle Rémi Coupi et lui par contre. Lui, il est sensible au son. Il est plus sonore que visuel. Donc, du coup, il a enregistré une ruche d'abeilles. Et justement, il a récupéré
les sonagrammes. Les sonagrammes. Les ondes sonores.
Voilà. Il les a récupérées, en fait. Et il les a sérigraphiées, en fait. Donc, ça a donné des visuels de sonagrammes. Et je trouvais ça très...
C'est tellement un gros bourdonnement.
C'est ça. C'est
ça. Oui, ça devait être beau en sérigraphie aussi.
Voilà, donc ça a donné un beau résultat.
Ça fait une sorte de tissu. Donc, comment il a utilisé son tissu? Est-ce qu'il y avait une utilité après? Est-ce qu'il a fait, un sac?
Non, c'était sur papier. À la fin, c'était un joli petit coffret, une belle petite édition. papier où on avait un petit boîtier avec un petit texte comme ça, un boîtier en carton, qui présentait le workshop, le concept, voilà, une sorte de préface. Et à l'intérieur, il y avait toutes les planches de tous les artistes, tout ce qui a été sérigraphié, en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a eu des artistes qui sont venus de différents horizons. Il y a un qui était peintre, l'autre qui était graphiste, l'autre qui était dessinateur, l'autre qui était graveur. Et notamment Rémi, lui, il faisait du son.
Ah
et,
bon,
mais
ouais.
Ça, voilà. Et donc, ça a donné de belles petites planches, comme ça, et chacun interprétait l'abeille comme il voulait.
C'est intéressant. Voilà.
Ouais. C'est un autre à ajouter dans ton répertoire.
Oui.
Imiter l'abeille.
Ouais.
Merci beaucoup de cet entretien.
Merci.
Donc, Claudette Lemay et notre ami Osama Tabdi donc, présentent leurs œuvres à la galerie...
Les grands bains douches.
Les grands bains douches.
De la plaine.
De la plaine.
À Marseille.
À Marseille, sur la rue de la Bibliothèque, jusqu'au 29 juillet.
C'est ça.
Donc, cool.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Les oiseaux habitent un peu micro-silence. On a deux œuvres qui parlent d'oiseaux. Et là, dans le jardin, au centre de la galerie, bien j'entends toutes sortes d'oiseaux. Donc, c'est la suite de micro-silence. Après Radio Grenouille, bien nous voici dans le jardin, in situ, attenant à l'expo micro-silence. Et je suis avec Constance Neffre, la commissaire de l'exposition, l'initiatrice... Avec Robin Dupuis, ils ont créé un dialogue afin d'accueillir des Français, comme je disais, et des œuvres québécoises. Et Constance Neffre a eu cette idée de rassembler des œuvres autour de l'idée de silence et micro-silence, de petits silences, donc tout ce qui est autour de petits sons, finalement. Et le silence, bien, c'est comme on en parlait. C'est pas quelque chose de facile à définir, mais on a chacun un peu nos feelings par rapport au silence. Donc, Constance, je sais que cette exposition, c'est quelque chose qui a été très instinctif pour toi et quelque part spontané peut-être. Mais parle-nous un peu de l'idée, l'étincelle de micro-silence.
Pourquoi je suis arrivée à parler du silence? Après, c'est très lié à mon parcours et à mes intérêts. C'est quelque chose qui m'habite profondément, c'est-à-dire je suis très sensible au silence, et notamment dans la musique, parce que j'ai une formation musicale. J'ai appris la musique au conservatoire, et en fait, c'est quand même plus tard que... par le jazz notamment, et par une rencontre aussi d'un musicien, d'un jazzman, pianiste, qui était très sensible au silence et qui m'a vraiment en fait appris à écouter le silence dans la musique. Et donc c'est quelque chose auquel je suis extrêmement sensible et que je cherche à entendre ou à percevoir à chaque fois que je vais à un concert ou que j'écoute une musique ou que je vais dans un endroit, en fait. Je cherche, en fait, les espaces entre les bruits et les sons. Et donc, cet espace, c'est ce que j'appelle le silence. Même si, effectivement, ce silence n'est jamais réellement silencieux. Mais après, c'est un silence aussi intérieur. Et j'ai toujours été sensible au zen, au bouddhisme. C'est pour ça que je suis très attirée aussi par la culture asiatique, notamment au Japon, où en fait cette notion d'espace est vraiment très présente. Laisser le silence exprimé dans l'espace, c'est quelque chose qui est conçu dans l'architecture, dans la culture en fait. Donc ça c'est une première chose. Et je suis aussi assez sensible au silence dans les relations, aux gens, avec les gens. J'aime les gens qui aussi... Enfin, j'apprécie quand dans une rencontre, il y a ces temps de silence qui sont assumés.
Donc, il y a des compositeurs classiques qui t'inspirent. Il y a ce classique Anton Weber qui s'inspire du silence, entre autres. C'est un des premiers compositeurs en piano qui utilisait le silence pour créer des petites pauses dans sa musique.
Mais moi, je crois que c'est vraiment l'univers du jazz, la musique improvisée. C'est vraiment à travers ça, ça a vraiment été mon école, en fait, d'écoute. Je suis absolument fascinée par l'improvisation et cette écoute nécessaire pour pouvoir jouer ensemble. Et en fait, il y a forcément des espaces de silence qui sont respectés. Mais tout ça passe par l'écoute, une écoute forte, que ce soit par le regard ou effectivement par la musique elle-même, par le rythme. C'est vraiment le jazz qui m'a appris à être attentive à ça.